Bonjour, je viens vous présenter les bases techniques de la méthanisation et vous faire part de quelques éléments de réflexion concernant cette nouvelle filière qui se développe intensément en Europe. J'ai intitulé cette rubrique « Les enjeux de la méthanisation en milieu agricole ». La méthanisation est un procédé biotechnologique qui consiste à produire des gaz méthane à partir de matières organiques diverses, en particulier de produits issus de l'agriculture. Cette démarche d'économie circulaire veut répondre à trois enjeux majeurs. D'abord, produire une énergie renouvelable se substituant aux énergies fossiles et contribuant à un futur système énergétique 100% renouvelable. Ensuite, offrir à l'agriculture l'opportunité de jouer un rôle moteur dans la fourniture d'une énergie verte issue de la biomasse. Enfin, générer un complément de revenus pour les agriculteurs. Voyons d'abord ce qu'est la méthanisation. Il s'agit en fait d'une fermentation de la matière organique par des micro-organismes au cours de laquelle du biogaz composé de 50 à 60% de méthane est produit. Je précise que cette conversion est lente et n'est possible qu'en l'absence totale d'oxygène, ce qui constitue une contrainte forte. La méthanisation se déroule de manière naturelle dans les sédiments, les marais, les rizières, les océans, les décharges, les tas de fumier, ainsi que dans le tube digestif de certains animaux, les herbivores par exemple, et de certains insectes, les termites ou les cafards. Les biotechniciens, ont pu domestiquer ce processus naturel au sein de digesteurs anaérobies pour produire de l'énergie sous forme de méthane. Par ailleurs, le résidu des digesteurs, appelé digesta, est épandu sur les sols agricoles où il est censé jouer le rôle de fertilisant. Voyons maintenant pourquoi les pouvoirs publics français soutiennent politiquement et financièrement la méthanisation. La loi de la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 fixe les objectifs de 10% d'ici 2030 de biogaz dans notre circuit, dont 90% proviendrait de l'agriculture. La méthanisation devient donc une activité agricole à part entière qui doit être soutenue par des aides financières et des subventions publiques, dit la loi. Les intentions de la loi sont donc claires. La loi considère que la méthanisation agricole devient un outil de production d'énergie dite verte ou renouvelable, fournissant également des engrais pour les sols agricoles, le tout constituant un complément de revenus financiers pour les agriculteurs. Reprenons chacun de ces trois arguments. L'énergie du méthane produit est considérée comme renouvelable. Cette mention de renouvelable s'appuie sur l'idée que les rejets de CO2 dus à la combustion du biométhane seraient compensés par une quantité équivalente de CO2 prélevée dans l'atmosphère pour la photosynthèse de la biomasse qui est introduite dans les digesteurs. Ainsi, le bilan CO2 serait nul et la méthanisation participerait à la lutte contre le changement climatique. L'utilisation des digestants sous forme d'engrais aurait un double avantage. Elle permettrait d'économiser l'achat d'engrais et donc d'économiser l'énergie nécessaire à leur synthèse. En outre, elle assure un retour de matière au sol agricole qui en ont besoin pour former de l'humus. La vente du méthane ou de l'électricité fabriquée à partir du biogaz constitue une source de revenus financiers complémentaires pour les agriculteurs. En effet, la loi impose des prix d'achat élevés aux fournisseurs de gaz et d'électricité. Comme indiqué précédemment, l'économie réalisée sur l'achat d'engrais participe à l'amélioration des revenus des agriculteurs. L'ensemble de tous ces éléments pourrait laisser croire que la méthanisation répond bien aux souhaits de l'autonomie énergétique de notre pays, tout en soutenant une agriculture en grande souffrance. Pourtant, des critiques graves sont adressées à la méthanisation. Voyons ce qu'il en est du bilan carbone. Contrairement à ce qui est affirmé par les organismes officiels, les ministères, l'ADEME, l'Association technique, l'énergie et environnement, une unité de méthanisation a un coût financier très élevé, environ 5 millions d'euros pour un site de taille moyenne. En effet, ces installations comprennent de gros équipements, des fosses de stockage pour les matières destinées à alimenter les digesteurs, un ou plusieurs digesteurs dont le contenu doit être malaxé et maintenu à près de 40 degrés, voire de 52 degrés dans certains cas, et ce, pendant plusieurs semaines pour une seule période d'activité. Un séparateur de phase pour les gaz, les liquides et les solides, et enfin un bâtiment de cogénération qui produira de la chaleur et de l'électricité à partir du méthane synthétisé. Le gaz ou l'électricité produite sont ensuite injectés sur les réseaux publics. Parlons maintenant du coût énergétique de ces éléments. De l'énergie sera dépensée d'abord pour leur conception, la table à dessin, et leur fabrication, l'usine. Ensuite, pour leur transport sur site et enfin pour leur fonctionnement. Je précise que chaque installation est unique et nécessite une étude spécifique. À cela, il faut ajouter l'énergie nécessaire pour produire en amont les cultures agricoles dédiées, labourer, semer, traiter les récoltes et transporter et récolter et stocker les produits récoltés. In fine, dans la plupart des cas, la somme des dépenses énergétiques est donc supérieure à l'énergie produite sous forme de méthane. L'objectif principal affiché de la méthanisation, qui est de produire de l'énergie renouvelable et de stabiliser le climat, n'a donc pas de sens. Voyons maintenant si les digestats sont de bons fertilisants. La teneur en carbone des digestats est faible, puisqu'une partie importante du carbone de la biomasse introduite dans les digesteurs a été fixée dans les gaz sous forme de méthane et de CO2. Par ailleurs, une part significative de l'azote des intrants est perdue sous forme d'ammoniac gazeux au cours des fermentations. Ces deux paramètres réduisent l'intérêt des digestats comme fertilisants azotés ou carbonés. Enfin, ces digestats contiennent parfois de nombreux contaminants présentant un danger pour l'environnement. Ils peuvent également contenir des microbes pathogènes qui peuvent s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Ils peuvent également contenir des métaux lourds ou des polluants organiques, tels que les hydrocarbures aliphatiques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, des pesticides, le PCB ou des dioxines qui contaminent les sols où ils sont épandus. En conclusion, les digestats ne sont pas de bons fertilisants et peuvent même polluer les sols agricoles ainsi que les eaux profondes. La méthanisation améliorerait les revenus des agriculteurs. Est-ce exact? Le coût élevé des installations de méthanisation place les agriculteurs qui veulent les acquérir en situation financière difficile. Par ailleurs, la technologie mise en place est complexe et elle nécessite un suivi fréquent par des techniciens spécialisés. Tous ces facteurs expliquent l'ingérence de plus en plus marquante des fabricants de méthaniseurs et des investisseurs financiers dans la prise en charge des installations. On voit alors que les agriculteurs deviennent de simples fournisseurs de végétaux destinés à alimenter les digesteurs. Ce mouvement peut même aller jusqu'à la cession de terres agricoles aux acteurs de la méthanisation. En conclusion, la méthanisation n'a pas d'intérêt sur le plan financier ou social pour les agriculteurs. Elle peut même les pousser à abandonner leur activité. Enfin, la méthanisation agricole vient en concurrence avec la production alimentaire pour l'utilisation des surfaces agricoles. Les surfaces agricoles mobilisées pour produire des cultures dédiées à la méthanisation ne seront plus disponibles pour la production des aliments de l'homme et des animaux. Cette nouvelle orientation de l'agriculture remet en question la mission même de l'agriculture. Faut-il produire de l'énergie ou bien nourrir les citoyens? Enfin, parmi les critiques adressées à la méthanisation, on peut citer les risques d'incendie et d'explosion de ces installations qui concentrent des quantités importantes de méthane, ainsi que les nuisances telles que les odeurs nauséabondes et les risques sanitaires comme les gaz toxiques et environnementaux. Des liquides et des gaz peuvent s'échapper des unités. Plus de 800 accidents ont été ainsi recensés en Europe au cours des 10 dernières années. Malgré toutes ces critiques, quels sont les domaines où la méthanisation pourrait avoir de l'intérêt? On peut considérer que la méthanisation de déchets organiques qui n'ont aucune autre valorisation ou qui présentent un risque élevé pour l'environnement est envisageable. Cela concerne surtout les déchets des industries agroalimentaires, tels que les laiteries, les conserveries, les abattoirs. Il sera alors important de s'assurer de l'innocuité des issues de la méthanisation. En guise de conclusion générale de cet exposé, je dirais que la position des pouvoirs publics sur la méthanisation doit être réexaminée à l'aune des nombreuses critiques qui lui sont adressées. Autre question cruciale que je soulève, comment demain sera gérée l'énergie dans notre pays ? La priorité étant de l'économiser au maximum plutôt que de chercher de nouvelles sources. Tous les éléments de cette réflexion valent également pour les biocarburants ou les agrocarburants, comme l'éthanol ou le diester, qui sont obtenus eux aussi par transformation des produits agricoles. Je vous remercie pour votre attention.